Radio Okapi. Le journal. Pascal Massiriga à la présentation.
Les titres de l'actualité, plus de 30 000 élèves et 87 écoles sont touchés actuellement par les inondations survenues dans le Tanganyika. Le directeur provincial de l'EPST, Nicolas Prince-Balelaï, assure à Radio Okapi que des mesures sont prises pour sauver l'année scolaire. Élection hier à Kinshasa, des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, parmi eux le premier vice-président qui remplace André Mbata. Dans ce journal, le portrait du brillant avocat Jean-Claude Chilumbaï. Notre invité, c'est le coordonnateur de l'organisation dénommée Tropenbox RDC. Le professeur Alphonse Maindo appelle les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de l'environnement et le gouvernement congolais à lutter efficacement contre le changement climatique. Madame, messieurs, bonsoir. Plus de 30 000 élèves et 87 écoles sont actuellement touchés par les inondations dans la province du Tanganyika. Ce bilan a été dressé hier après-midi par le directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Nicolas Prince-Balelaï, assure que des mesures sont prises pour sauver l'année scolaire. Académie, le point de la situation avec vous, Paul Mounanga.
Le directeur provincial de l'EPST Tanganyika 1 annonce que des écoles sont inondées par les eaux du lac Tanganyika. Pour Nicolas Prince-Balelaï, cette année scolaire est perturbée et l'impact est énorme sur l'exécution du calendrier scolaire pour les élèves concernés par les inondations. Cependant, il souligne que l'urgence est de sauver cette année scolaire qui tend vers la fin. Selon lui, la solution provisoire a été de déplacer les élèves sinistrés dans d'autres écoles afin de poursuivre avec les enseignements. C'est notamment à l'Institut Maito, Kifungo et à l'université pilote de Kalemie. Faute des salles de classe, certains élèves suivent les cours dans une église, indique le directeur provincial de l'EPST. Un autre défi est la conservation des matériels didactiques et d'autres fournitures scolaires face aux inondations. Le prophète plaide pour la construction en urgence dans son secteur des nouvelles infrastructures scolaires pour les élèves sinistrés. Signalons que la province éducationnelle Tanganyika 1 couvre la ville et les territoires de Kalemie, ainsi que les territoires de Moba et Nyunzu. Kalemie, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Fin à la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi, des journées scientifiques couplées aux journées scientifiques sous le paludisme. Pendant 3 jours en effet, les participants aux assises venus du pays et de l'étranger ont planché sur les défis sanitaires actuels dans le Haut-Katanga et sur la place de la vaccination face à la résistance aux insecticides. De précisions à ces sujets précisément avec le coordonnateur des journées scientifiques sur le paludisme, Dr Thierry Bobanga, au micro de Jean Ganouka Bongo.
Vous avez des saisons de pluie qui sont en moyenne à travers le pays au-delà de 8 mois. Et n'oubliez jamais que la pluie, c'est un facteur qui contribue énormément à la transmission de la malaria. La pluie donne des eaux qui vont être des endroits où les moustiques vont facilement se développer. Un autre élément de la nature, les cours d'eau que nous avons en RDC. Et ces cours d'eau, dans leurs berges, peuvent être des endroits où les moustiques peuvent se développer. La situation de la malaria en RDC est assez particulière. Donc c'est peut-être à nous de trouver des stratégies, des moyens pour essayer de contrôler la maladie avec les conditions que nous avons. C'est la transmission qui est parmi les plus élevées, même dans le monde, à cause du climat, mais aussi à cause des médicaments qui ne répondent pas toujours vis-à-vis des plasmodium. Vous avez les insecticides qui ne répondent pratiquement plus comme on attendait à cause de l'insecticide. Vous avez des médicaments, même des faux médicaments. On distribue des moustiquaires, les gens les prennent et les utilisent pas. Donc il y a encore un grand effort à faire vers la population.
Politique à présent. Élection hier ici à Kinshasa des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Nous en avons parlé dans nos précédentes éditions d'information. Venons-en maintenant au portrait de l'un des membres de ce bureau définitif de l'Assemblée nationale en la personne du premier vice-président. Le professeur Jean-Claude Chilumbaï succède à André Mata. Jeff Ngoy pour Radio Okapi nous présente ce brillant avocat.
Né en 1973 à Kananga, au Kasaï central, Isaac Jean-Claude Chilumbay est l'élu de la circonscription de Luisa. Professeur de droit public à l'université de Kinshasa, il gravit presque tous les échelons au sein de l'UDPS. De simple combattant vers les années 2007 au haut cadre du parti où il exerce les fonctions d'abord de vice-président de la cellule électorale permanente de ce parti depuis 2018. Puis il en devient président en remplacement de Jacques-Mel Chabani, nommé au collège des conseillers du président de la République. Il fait partie de la direction de la campagne électorale de Félix Tshisekedi de 2023. Responsable de la plus grande mosaïque de l'UDPS et de ATD, celle-ci réussit à faire élire 24 députés nationaux, dont lui-même. Lors du procès sur la débâcle du parc agro-industriel de Bougangalonzo, il est avec Chabani, conseil de Christophe Robler, le chef de la firme sud-africaine Africom. Il réapparaît à la Cour constitutionnelle pendant le contentieux des candidatures à l'élection présidentielle de 2023. Ici, il défend la candidature de Félix Tshisekedi contestée pour l'immuabilité de nom, alors il l'emporte au terme du dit contentieux.
Merci Jeff Ngoy pour ces précisions. Politique encore à Goma. La campagne pour les sénatoriales s'est poursuivie ce jeudi pour la deuxième journée consécutive. Les candidats sont passés tour à tour pour tenter de convaincre les députés provinciaux réunis dans la salle des conférences de la BDGL qui sert d'hémicycle. Le récit de Chris Moukand.
Honorables députés provinciaux et chers électeurs.
Pour ce jeudi, les députés provinciaux du Nord Kivu présents dans la salle vont écouter 10 allocutions de campagne. Sont en lice 4 indépendants, dont une dame, Hortense Mali Rokavuo, 4 candidats proposés par le regroupement politique AEDC-A. Le code aligne un seul candidat, Elvis Mutiri Wabashara. C'est maintenant ou jamais que le Nord Kivu devrait être représenté par des sénateurs capables de défendre valablement la province, a affirmé devant la presse locale le rapporteur de l'Assemblée provinciale, et d'ajouter « La province du Nord Kivu a beaucoup de problèmes, dont celui de l'insécurité, donc nous avons besoin de gens qui seront en mesure d'aller défendre pour que les déplacés qui se trouvent dans les camps, à Goma et dans le territoire de Nyiragongo, puissent retourner dans leur territoire respectif. » S'ils sont 34 candidats au départ, à l'arrivée, seuls 4 seront élus sénateurs de la 4e législature pour la province du Nord Kivu. Le vote est prévu ce dimanche 26 mai 2024. Chris Mukand, Radio Kapi, Goma.
Et au Congo central, les députés provinciaux ont mis sur pied à Matadi 2 commissions spéciales. L'une s'épanche sur l'utilisation des 6 millions de dollars américains contractés à crédit par le gouvernement provincial pour financer la construction des infrastructures sportives. C'était au cours d'une séance plénière dirigée par le président de l'organe délibérant, Papi Mantezolo. Pour en parler, retrouvons à Matadi Nana Plurich Mambou.
Les 2 commissions commencent les travaux dès ce lundi 27 mai 2024. La première devant enquêter sur les conflits entre l'ONATRA et les riverains du fleuve Congo à Matadi. Et la seconde a pour mission d'éclairer la lanterne des élus du Congo central sur l'utilisation des 6 millions de dollars américains contractés à crédit par le gouvernement provincial pour financer la construction des infrastructures sportives au Congo central. Selon la plénière, cette enquête s'avère indispensable car depuis que cet emprunt a été contracté, les travaux de construction de ces infrastructures sportives n'ont jamais démarré dans certains coins du Congo central, à l'instar du stade Mfuki Dinkisi à Madimba et de Sokol à Boma. Et le stade Lumumba de Matadi que le gouverneur de province a trouvé en chantier, les travaux ne sont toujours pas achevés. La dite commission va aussi enquêter sur la rétrocession de la production du pétrole à Mwanda pour savoir le nombre de fois que la province a perçu cet argent, son montant et son utilisation. Cette même plénière a aussi été une occasion pour les députés provinciaux d'adopter le calendrier de la session ordinaire de mars. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Dans un autre registre, en Ituri, une position des miliciens de la Codeco et plusieurs barrières qui ont été érigées sur la route nationale numéro 27 ont été démantelées mardi après-midi par les casques bleus de la MONUSCO. C'était dans le cadre de l'opération militaire dénommée Patte du Tigre dans le territoire de Djougou. Objectif visé, sécuriser les sites des déplacés à Bounia. La correspondance d'Isaac Remoyope.
Les contingents bangladais et népalais ont renforcé leur présence dans les localités qui abritent les sites des déplacés dont Fatah Kiboule Jina. Ces forces de la MONUSCO organisent également des patrouilles à longue portée sur la route nationale numéro 27 et d'autres axes des dessertes agricoles Blue Kwaro, Lita, Katoto pour prévenir les attaques des groupes armés contre les usagers des routes. Lors de leur passage hier mardi vers la colline Ouzi, environ 80 km au nord de Bounia, ces casques bleus ont essuyé des tirs d'un groupe de miliciens de la Codeco, précise des sources de la MONUSCO. Ils ont riposté et délogé ces hommes armés après échange de tirs qui ont duré presque 30 minutes. Il n'y a pas eu de pertes en vies humaines dans les deux camps. Ces contingents ont également démantelé certains postes de contrôle de cette milice pour rançonner les usagers des routes. Dans le cadre de cette opération, ces forces de la MONUSCO ont également installé des positions temporaires à Picho, Pimbo et Djougou pour bloquer les passages des assaillants, ajoutent des sources de la MONUSCO. De nombreux habitants expriment leur satisfaction sur cette action pour garantir la sécurité dans cette entité. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Capi.
Dans l'actu, il y a aussi ces affrontements survenus ce jeudi entre les FARDC et les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise autour de la cité de la Ruindi dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu, alors que des sources concordantes parlent de la reconquête de plusieurs villages du territoire de Masisi par les FARDC. Il y a des projectiles qui continuent de tomber sur des villages de ces territoires. Et au Kasaï oriental, des commerçants venus de Kalemi et de Bukama déplorent actuellement le retard enregistré dans l'acheminement à Mweneditu de leur cargaison de poissons et de frétins. Plusieurs produits arrivés dans cette ville sont déclarés avariés, affirment les propriétaires de ces marchandises. Ils pointent du doigt la SNCC. Le chef de service commercial de cette entreprise ferroviaire affirme que ses clients n'ont pas contacté du tout les services chargés de gérer les litiges pour se faire indemniser. Mbujimayi, Esther Ndalafina.
Les marchés de Mbujimayi sont inondés de plusieurs poissons avariés en provenance de Kalemi, de Bukama et de Lubumbashi. Certains propriétaires de ces produits affirment que leurs marchandises ont été acheminées à Mweneditu par la SNCC après avoir été embarquées depuis plus de 6 mois.
Regarde tout un sac avec des poissons salés avariés. La SNCC n'a pas voulu acheminer nos wagons à temps. Les poissons sont des produits périssables. Nos enfants ne seront plus étudiés. La SNCC nous a rendus pauvres.
Dominique Ilunga, directeur provincial de la Fédération des entreprises du Congo FEC, demande à la SNCC de trouver des solutions avant le pire.
Le dysfonctionnement de la SNCC risque de causer des morts de suite de ces pertes. La SNCC, lorsqu'ils ont constaté qu'ils n'étaient pas à mesure de transporter, je crois qu'il était temps pour elles de restituer leur argent et leur cargaison.
Rémi Mukendi, chef de service commercial de la SNCC Mweneditu affirme qu'aucun client n'a contacté les services litiges de l'entreprise pour se faire indemniser. Signalons que la SNCC reconnaît tout de même avoir connu des difficultés dans l'acheminement à destination des marchandises de ses clients. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président gabonais effectuera son tout premier voyage officiel en France du 28 mai au 2 juin prochain. Brice Oligui Nguema se rendra à Paris avec plusieurs ministres, notamment celui de l'économie nationale. Une visite de travail durant laquelle il sera reçu à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. En France, précisément, l'ensemble de l'audiovisuel public est appelé aujourd'hui et demain à la grève. Objectif, combattre la réforme de ces secteurs de l'audiovisuel public qui doit être examiné en première lecture jeudi et vendredi à l'Assemblée nationale. Des perturbations sont attendues sur les différentes antennes de France Télévisions, France Médias, Monde et Radio France Internationale. Hier, plus de 1100 salariés de RFI ont désapprouvé cette réforme. En Ukraine, enfin, la nouvelle loi sur la mobilisation militaire est entrée en vigueur. Elle élargit le nombre de personnes mobilisables dans les rangs de l'armée nationale, l'âge minimal de l'appel sous les drapeaux étant abaissé de 27 à 25 ans. Résultat aujourd'hui, en 4 jours, des milliers d'Ukrainiens se sont présentés dans les centres de recrutement militaire.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur de l'organisation dénommée Tropenbox RDC. Le professeur Alphonse Maindo appelle les organisations de la société civile qui travaillent dans les domaines de l'environnement et le gouvernement congolais à lutter efficacement contre les changements climatiques. Il s'entretient à Kisangani avec Jacques Mukongole.
Professeur Alphonse Maindo, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'organiser un séminaire sur les changements climatiques, ses causes, ses conséquences, ainsi que les mesures d'adaptation. Avez-vous eu l'impression que cette notion de changement climatique n'est pas bien intégrée ou pas du tout intégrée par la population?
Ce que nous pouvons vraiment retenir à travers ce séminaire, c'est qu'il y a le besoin qu'on avait identifié d'informer les gens sur cette thématique était un besoin réel. En écoutant les échanges qu'on vient d'avoir ici, on se rend compte que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est les changements climatiques. Et il y a un certain nombre de lacunes et il faut donc informer davantage. Et le manque de connaissances, c'est vraiment un sérieux problème par rapport à cette question.
Les spéculations, les rumeurs autour des vagues de chaleur ces derniers temps à Kisangani et peut-être dans d'autres villes de la RDC peuvent-elles être versées sur les comptes de cette ignorance de la population par rapport aux causes de la chaleur et des changements tant décriés?
Oui, absolument. C'est la plupart de ces rumeurs sont liées à ça. Et les gens commencent à dire même que la tour à flux, qui est un instrument, un dispositif des mesures, des échanges gazeux entre l'atmosphère et les forêts, qui a été implanté dans la réserve de biosphère de Yangambi, les gens commencent même à dire que c'est à cause de cette tour-là qui récupérerait l'oxygène de la RDC pour vendre ça aux pays occidentaux qui en manquent. Et donc, c'est ça qui fait que nous étouffons et que nous avons cette vague de chaleur. Voyez-vous, il y a nombreuses personnes qui croient à ça, même des gens érudits, ce qui est vraiment hallucinant de voir ça. Et donc ça montre encore une fois qu'il y a nécessité, qu'il y a besoin d'informer, d'éduquer les gens, de sensibiliser sur ce qu'est les changements climatiques, quelles sont ses causes, quelles sont ses conséquences et comment nous pouvons donc faire face à ça.
Quelles sont ces mesures justement que vous pouvez envisager pour essayer de conscientiser la population?
Il y a des mesures qui peuvent être considérées des mesures à l'échelle globale qui consistent à prendre un certain nombre de... En ce qui concerne l'industrie, par exemple, qui est source de beaucoup de gaz à effet de serre, à prendre l'aviation, tout ce qui concerne les énergies fossiles, donc réduire notre dépendance aux énergies fossiles pour que nous puissions consommer davantage les énergies plus propres, plus renouvelables, comme l'énergie solaire, l'éolienne, l'hydroélectricité, toutes ces choses-là. Alors, mais il y a aussi des gestes simples à l'échelle individuelle que nous pouvons faire. C'est par exemple quoi? C'est de changer notre mode de vie, le mode de quel type de transport nous utilisons. Au lieu, par exemple, de prendre sa voiture personnelle, un gros 4x4, on pourrait prendre les transports en commun, on pourrait prendre une bicyclette, on pourrait marcher. Et quand on quitte une pièce, au lieu de laisser la lampe allumée, on l'éteint. Lorsqu'on cuisine, ou quand on a fini de cuisiner, au lieu de laisser les braseros avec le charbon se consumer indéfiniment, on éteint le feu. Voilà, il y a un ensemble de gestes, cette surconsommation que nous avons. Et il y a des choses aussi plus simples. Par exemple, vous savez que la production de la viande, c'est une des causes importantes de production de gaz à effet de serre. Et donc, si on réduit notre consommation de viande, on privilégie la consommation des végétaux, comme les légumes et tout ça, on contribue également à la réduction de ces changements climatiques.
Le gouvernement a-t-il un rôle à jouer aussi dans cette lutte? Ce serait lequel?
Le gouvernement, c'est le moteur même de cette lutte-là. Parce qu'il faut qu'il y ait une politique générale de la République par rapport à la question de la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi prendre des mesures d'encadrement et des mesures aussi contraignantes. Pour tous ceux qui contribueraient énormément, comment on peut le décourager? Et comment on peut inciter les acteurs, les agents privés, les agents économiques à pouvoir produire moins de gaz à effet de serre, protéger par exemple les forêts. Si le gouvernement fonctionne bien, il y aura une meilleure gouvernance des forêts. On va moins couper les arbres parce que les arbres, c'est un puits important de carbone parce que ça ségresse les dioxydes de carbone. Et les tourbières que nous avons, les tourbières, c'est également un grand puits de carbone. Si le gouvernement décide de préserver ces tourbières-là plutôt que de chercher à exploiter les hydrocarbures qui se trouvent en dessous de ces tourbières, en ce moment-là, le gouvernement contribuerait aussi à préserver notre environnement.
Et les organisations qui militent pour la protection, la conservation de l'environnement, qu'est-ce qu'elles devraient faire à leur niveau?
Les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de l'environnement, leur rôle principal, c'est de contribuer à l'éveil de conscience, à améliorer les pratiques et ainsi que les connaissances que les gens ont sur les questions climatiques. Parce que parfois, les gens posent des gestes simplement parce que ils savent savent pas. Voyez-vous, pourquoi les gens jettent énormément de déchets à gauche et à droite? Nous produisons des tonnes de déchets chaque année. Mais on pourrait réduire ça par notre manière de faire. On peut faire un tri et redonner une seconde vie à tous ces déchets-là. Et c'est le rôle que les organisations de la société civile peuvent jouer pour éduquer les gens à pouvoir vivre différemment, à changer nos modes de vie.
Professeur Alphonse Mahindo, merci.
Je vous en prie.
C'était l'invité de Radio Okapi, le coordonnateur de l'organisation Tropembox RDC. Le professeur Alphonse Mahindo a été interviewé à Kisangani par Jacques Mkonkole. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté à Kinshasa. Il est 18h20. Infiniment merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelle Kipela Mondo.